Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de pouvoir le célébrer, le louer, le chanter. Lis un psaume, le psaume 23. C'est vrai que Stéphane nous encourage avec le psaume 45 ce matin, et moi je voudrais, dans cette même pensée, lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà, que ce matin, que nous puissions être encouragés. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est ton berger, celui qui prend soin de toi. Quand tout va bien, même quand tout va mal aussi. Nous continuons notre enseignement d'il y a quelques dimanches sur le service chrétien. Et dimanche dernier, nous avions pris le temps dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, les 9 premiers versets. Nous avons essayé de parcourir ce texte en recherchant comment le Seigneur nous encourageait à le servir, en parlant de façon de plus en plus précise de la question des dons dits spirituels. Hein. Et j'ai précisé que le thème spirituel ne fait pas des dons quelque chose de mystique. Hein. Spirituel, on pourrait juste entendre des dons que Dieu fait. Vu que c'est Dieu qui le fait, c'est des dons spirituels, n'est-ce pas? Donc spirituel ici, ce n'est pas mystique. Et que dans l'Église, donc l'Église avec grand E ou petit E, peu importe le E que vous mettez, l'Église, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Créteil est l'Église de Dieu. Et dans l'Église, ces dons sont utiles, sont nécessaires, parce que nous sommes la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et que chacun de nous est une pierre dans cet édifice. Et que parce que chacun de nous est une pierre sur cet édifice, bah, chacun de nous doit être à sa place, à la bonne place. On ne le sait pas toujours, on tâtonne parfois, mais l'idée c'est qu'on soit en mouvement tous ensemble. Et nous sommes aussi un corps. Comme le corps a besoin de tous ses organes pour être bien vivant, nous avons besoin chacun des autres. Mais pour que le corps puisse fonctionner de façon harmonieuse, il faut que chaque membre joue son rôle. Et si un membre ne connaît pas son rôle, bah c'est un dysfonctionnement. Et donc, les épîtres que l'apôtre Paul, poussé par Dieu, nous laisse, soit dans Romains 12 ou dans 1 Corinthiens 12 que nous allons voir, nous aident à affiner notre service dans le Seigneur, à être à la place avec les dons que Dieu nous a faits. Et quand on parle de l'Église, et je l'ai bien précisé dans la thématique que je vous ai proposée, servir Dieu, certes, ça commence dans le service pour Dieu, dans l'Église, mais c'est aussi plus large, le service du prochain, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc les deux sont toujours très liés. Et donc nous avons vu que dans la notion du corps de Christ, justement, chacun doit prendre conscience du don qu'il a reçu de Dieu, n'est-ce pas? Et qui doit le mettre résolument au service de Dieu, de la communauté. Que les dons pour servir Dieu, pour servir l'Église, pour servir le prochain, prend la forme d'une capacité, de capacité variée. Hein? La notion de capacité, c'est des aptitudes à faire des choses. Et j'ai précisé qu'en fait, ces aptitudes, elles ne sont pas toujours innées. On peut aussi les apprendre et exceller dedans. Et c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui, dans le parcours qui est le nôtre, dans les situations qui sont les nôtres, nous donne d'acquérir ses aptitudes. Parce que lui, il sait que l'église à laquelle tu appartiens ou les personnes que tu côtoies auront besoin de ce don-là. On voit que quand on parle des dons, c'est vrai que dans certains milieux, dès qu'on dit dons spirituels, c'est des choses extraordinaires, n'est-ce pas? On pense à des choses vraiment qui font waouh, où on est ébahi, on est étonné. Et puis souvent, quand on vient dans des églises, enfin comme les nôtres, quelquefois les gens disent oh, mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici parce qu'il n'y a pas de choses extraordinaires. Je faisais remarquer que ça dépend de notre définition de l'extraordinaire, n'est-ce pas? Ça dépend de notre définition de l'extraordinaire. Parce que chacun de nous ici présents, pour nous tous qui avons accepté Jésus, nos vies sont extraordinaires. Parce que ce n'est pas de nous que nous sommes devenus chrétiens. Dieu nous a interpellés et son esprit a fait une action en nous. Et c'est cette action de l'esprit qui nous a donné de répondre oui. Et Dieu a fait ce travail. Nous sommes des êtres simples, des êtres ordinaires, mais avec un Dieu extraordinaire qui fait des choses en nous. Et nous avons donc pu voir un certain nombre de choses. Donc ce texte de ce matin, c'est 1 Corinthiens 12. Voilà, la diapo d'après. Donc ça, c'est le thème. C'est le même thème que la semaine dernière. Donc on continue sur cette thématique-là. On est dans 1 Corinthiens 12 aujourd'hui. Dimanche dernier, on était dans Romains 12. Voilà. Et ça, c'est ce que je viens de partager tout à l'heure. Voilà. Les dons au service de Dieu. Et dans cette question de service, ce n'est pas les titres qui constituent l'essentiel. Hein, ce n'est pas le titre qui fait le service. L'important, c'est que les divers services, les divers dons soient assurés avec modestie. Et c'était ce qu'on avait vu dans Romains 12. Que chacun de vous soit modeste dans son service, dans les capacités, dans les choses dans lesquelles il s'est excellé. Finalement, c'est Dieu qui lui donne. Mais il faut que ce soit au service. C'est Dieu que nous devons honorer, c'est à Dieu que nous devons rendre la gloire. Et nous avons vu quelques dons la semaine dernière. Vas-y, s'il te plaît. Voilà, donc nous allons lire ce texte et ensuite nous allons continuer dans la série des dons. Je vous invite à la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12. Je ferai la lecture du verset 4 au verset 11 et du verset 26 au verset 31. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 26. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils? Tous sont-ils docteurs, pardon? Tous sont-ils des dons de miracles? Tous sont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et après le chapitre 12, on a le chapitre 13, qu'on appelle le chapitre de l'hymne à l'amour, où il décrit le chemin par excellence, qui est le chemin de l'amour. Donc j'ai précisé la fois dernière que dans l'épître aux Romains, on a une épître qui est écrite avec assez de sérénité, où l'apôtre Paul établit la doctrine. Et là, on sent que c'est une épître calme, où il parle des choses de façon sereine. Et quand on lit l'épître aux Corinthiens, c'est une épître un peu... Parce que l'église de Corinthe était une église un peu particulière, qui était une église, on va dire, un peu à problème. Parce que dans cette église, finalement, la manifestation des dons spirituels était devenue une situation un peu de conflit. où quelques-uns pensaient que parce qu'ils avaient un certain nombre de dons dits exceptionnels, ils étaient supérieurs. Et du coup, on cherchait à être supérieur en courant vers certains dons. Et c'était devenu une forme de compétition. Alors que dans leur culture de Corinthe et des gréco-romains, justement dans les cultes païens, dans les cultes non chrétiens, il y avait déjà ce type de recherche mystique où les Corinthiens non chrétiens aimaient ce type de spiritualité mystique, où ils recherchaient ces choses soi-disant extraordinaires. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand vous étiez païens, quand vous n'étiez pas chrétien, déjà vous étiez attirés par ces choses-là et ça crée des problèmes. Mais vous n'allez pas ramener vos choses ici à l'église. Donc, il écrit cette épître pour recadrer les choses, pour redire les choses de façon claire et saine. Tu peux mettre la diapositive après, s'il te plaît. Voilà. Donc, il précise des choses. Lorsqu'il reprend les Éphésiens, les Corinthiens du moins, il les encourage à revisiter leur regard sur la spiritualité. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit dans une autre expérience. Si vous êtes chrétien, si vous avez fait l'expérience de la conversion, si vous avez entendu l'Évangile qui dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » et que vous avez compris que vous étiez perdu et que votre chemin, c'était l'enfer et que Dieu a un autre projet d'amour pour vous, un projet de bonheur au paradis et que vous aviez accepté ce message, ben, ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que dans cette épître, il dit « Nul ne crie à bas père s'il n'a pas été touché par l'Esprit de Dieu. » Donc, tout chrétien basique que nous sommes, lorsque nous sommes convertis, nous avons le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas besoin de chercher le Saint-Esprit dans des, je sais pas moi, dans des choses parfois tellement compliquées. Et je vous parle par expérience. Parce que dans mon parcours, ces choses n'étaient pas claires et on m'a fait chercher le Saint-Esprit par des choses incroyables. Avec du recul, je me dis, on aurait pu m'éviter ça. Parce que j'ai cherché des choses qui n'étaient pas vraiment bibliques. L'apôtre Paul dit que la manifestation de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit sont des dons. Le terme charisme, hein, vous savez, on dit que certaines églises sont des églises charismatiques. C'est un mot qui parfois paraît technique, mais en grec, c'est la traduction de don. Charisma, c'est donner, c'est don. Quelque chose que je donne gratuitement à quelqu'un. Donc le terme charisme dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui donne gratuitement ses capacités. C'est Dieu qui met des occasions, des circonstances pour que nous acquérions ses capacités. Et il le fait gratuitement. C'est lui qui les donne. C'est ça les charismes. Ce n'est pas mystique, c'est juste la traduction de don. Donc ces dons sont gratuits, c'est des cadeaux que Dieu fait aux hommes, n'est-ce pas? C'est des cadeaux qu'il accorde. Les dons de Dieu sont très divers. Là, dans les listes de Romains 12 et de 1 Corinthiens 12, ce n'est pas les listes exhaustives. Il donne des exemples précis de choses très concrètes, mais quand on lit la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont été animés, traversés par des dons divers et variés. Dans cette liste, vous n'avez pas le don de musique, par exemple. Et pourtant, quand on prend le roi David, incroyable. Incroyable musicien, compositeur des psaumes. Et le texte dit que quand Saül était agité par des démons, il invitait David, il dit, David, viens chanter avec ta harpe. Et quand David chantait, les esprits mauvais fuyaient de Saül. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que ça peut être? Et pourtant, dans cette liste, vous n'avez pas la musique. Donc les dons de Dieu sont divers et c'est varié. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le donne, à qui il le veut, en fonction des capacités, on l'a déjà vu. Il dit en fonction de la mesure de foi de chacun. Ça ne veut pas dire que quelques-uns ont peu de foi et d'autres ont beaucoup. Non, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il va faire avec chacun de nous dans notre condition, dans notre situation particulière. Et c'est lui qui nous fait grâce. Si Dieu sait que, je ne sais pas moi, je prends un exemple à tout hasard, si Dieu sait que si je commence à être utilisé par lui pour faire des miracles, je vais me prendre la tête. Honnêtement, je préfère ne pas faire de miracle. Parce que si c'est pour me la... Je mets même ma vie en danger parce que je me rends orgueilleux. Et il me semble que parfois, certains hommes de Dieu se sont laissés aller à ça. Et quelquefois, je regarde des vidéos, je suis tellement peiné. Des hommes que des hommes saluent à genoux. Ils sont devenus des seigneurs. On les attend parce que dès qu'ils vont arriver, il y a quelque chose qui va se passer. Donc on n'attend plus Dieu en fait, mais on les attend eux. Et moi ça me fait peur. Ils ont un tel pouvoir sur les gens. Leur parole est presque parole d'évangile. Et quelquefois dans ces bibles on dit, il a dit. On dit plus la parole de Dieu a dit, on dit il a dit. Donc c'est devenu parole d'évangile. Et Dieu nous met en garde par rapport à ça. Donc quand Dieu nous connaît, il connaît nos penchants, il connaît nos tentations, il nous donne les dons qui ne vont pas nous amener ailleurs, mais qui vont nous laisser proches de lui et être utiles à l'œuvre de Dieu. Et dans le culte, et l'apôtre Paul a insisté dessus dans l'épître aux Corinthiens, il dit quand vous êtes rassemblés en église, les dons qui sont les plus importants, c'est ceux qui édifient tout le monde. Chacun ne vient pas faire son petit spectacle pendant le culte. Il dit que ce n'est pas le but. Parce qu'apparemment à Corinthe, c'était devenu ça. Chacun vient, il fait son truc. L'apôtre Paul dit, mais non, quand même, c'est l'église du Dieu vivant. Il y a un ordre, il y a une sérénité. Et il dit, imaginez-vous, si ce dimanche-là, il y a un non-chrétien qui vient et que vous commencez à faire vos histoires, mais il sera perturbé. Il sera perturbé. Alors que Dieu l'a fait venir pour lui annoncer l'évangile. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait fuir. Donc un peu de sérénité dans le service des dons spirituels. Un peu de sérénité. Et c'est pour ça qu'il dit, la voie par excellence, je vous la montre. C'est l'amour. Il dit, si Dieu me donne un don, quand je veux l'exercer, ma première réflexion, c'est comment ça manifeste l'amour de Dieu pour mon frère. Et que parfois, il faut être aussi sage, parce que souvent, on a dit, c'est pour ton amour, mais si on fouille bien, c'est pas pour l'amour du frère. C'est pas pour l'amour de la sœur. C'est parce que tu avais envie de le faire. Et parfois, on a des bons prétextes spirituels. Dieu m'a mis à cœur d'eux. Parfois c'est vrai, d'autres fois c'est pas vrai du tout, mais comme on est tellement convaincu de quelque chose, on le fait, mais le résultat n'est pas selon Dieu finalement. Parce que quelquefois le résultat c'est plus de divisions, plus de problèmes que de situations apaisées. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Et le fruit ici c'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous pouvez avoir un panier de fruits rempli. Si les fruits ne sont pas bons, parfois on a des paniers de clémentines. Oh là là, où t'as acheté ça? Et c'est pareil, c'est pas la quantité, c'est d'abord la qualité. Quelle est la qualité du service? Comment ça bénit tes frères? Comment ça les enrichit? Et à partir de là, l'apôtre Paul dit, ok, maintenant que ça c'est clair, on peut commencer à dire de quoi il s'agit dans ces histoires de dons spirituels. Qu'est-ce qu'il en est? Il commence en disant, je ne veux pas que vous soyez ignorants sur les manifestations que Dieu peut faire au travers de chacun d'entre vous. Et donc, je vais vous instruire. Je vais vous donner une liste, mais qui n'est pas exhaustive, mais qui peut vous aider. Il dit, cet esprit, c'est lui qui donne. À l'un, il va donner quoi? Mets la diapo d'après, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Romains 12. Il dit deux catégories. Il y a les dons qu'on appelle les dons de ministère de la parole. Hein, tout ce qui va être enseignement, prédication, exhortation, qui va tourner autour de l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, il y a la catégorie des services pratiques qu'on appelle la diaconie. Hein, c'est le mot grec, diakona, qui veut dire service. Hein, donc, c'est le service. Le service, c'est des choses pratiques, concrètes, pour l'Église, hein, pour l'organisation de l'Église. C'est la libéralité. Hein, la libéralité... Je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas un don que tout le monde aspire, parce que la libéralité, c'est lié aux finances, au matériel. Hein. Mais il y a des frères comme ça qui sont incroyables, il y a des sœurs comme ça, il y a des familles comme ça. Et j'ai dit, on ne se compare pas, c'est Dieu qui donne. La Bible dit que Dieu donne à chacun selon ce qu'il sait. Hein. Et à la fac, on avait un frère qui avait ce don-là. Il m'impressionnait toujours. Il m'impressionnait toujours parce que quand il y avait des personnes, enfin des amis à nous qui étaient dans des situations financières difficiles, ben, il pouvait se départir d'une grosse somme de sa bourse à lui et la donner. On était tous chrétiens. Je dis, mais tu fais ça, mais tu vas manger quoi après toi? Il dit, mais le frère, il a plus de problèmes que moi. C'était incroyable. Il n'avait pas de souci pour lui d'abord. Il avait ce cœur pour cette personne qui était plus dans le besoin que lui au moment précis. Et lui, il était toujours convaincu que de toutes les façons, Dieu ne nous laisserait pas seuls. Et c'était vrai, parce que les jours, il manquait de rien. Et une fois, ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait une amie à nous qui voulait écouter de la musique, mais qui n'avait pas les moyens de s'acheter un magnétophone. À l'époque, c'était les cassettes encore. Maintenant, il n'y en a plus. Et elle a partagé ça en toute simplicité dans une conversation. Il est rentré dans sa chambre, il est revenu avec son magnétophone, il a dit, tiens, va avec. Moi, je dis, bon, moi, je ne peux pas donner comme ça. J'ai besoin d'écouter aussi la louange à Dieu et tout. Mais on n'était pas pareil. Mais lui, il avait ce don-là. Cette facilité de se départir de quelque chose pour que les autres soient bien. La direction, c'est tous ceux qui ont le don de conduire des groupes. Conduire des groupes dans le sens de l'église. Hein. Ça touche au conseil de l'église, ça touche aussi aux cellules. On a des frères et des sœurs comme ça qui ont cette capacité de conduire des groupes, de les diriger, de les conduire. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on a déjà parlé de ça dimanche dernier. Donc j'évoque juste ça pour qu'on aborde les dons d'aujourd'hui. Et enfin la miséricorde. La miséricorde, c'est ce don particulier où quelques-uns sont touchés par la misère des autres. On est tous en tant que chrétiens touchés. Mais ces frères ou ces sœurs-là, dès qu'elles sont touchées, elles ne réfléchissent pas à deux reprises et s'engagent tout de suite pour aller aider la personne. Parfois, elles ne savent même pas comment elles vont faire. Mais elles sont déjà parties avec la personne. Et parfois, nous, on est un peu choqués. On dit, mais tu y vas trop vite là, tu fais quoi là? Elle n'a pas peur s'il y a des démarches à faire, elle s'engage avec des gens. Incroyable. Et ce don est un don important pour l'église parce que dans l'église, on a des situations où on a besoin que le Seigneur nous aide pour porter des situations lourdes quelquefois. Il y avait un pasteur, on raconte qu'il y avait un pasteur, c'est une histoire vraie, un pasteur en France, je ne sais plus dans quelle région, mais il avait ce ministère de miséricorde vis-à-vis des sans-abri. Si vous connaissez les sans-abri, vous savez que c'est un ministère très lourd. Déjà, ceux qui font les maraudes, je ne sais pas si vous avez suivi les émissions des maraudes, mais c'est des personnes qui sont tellement détruites dans la vie qu'elles préfèrent rester dans la rue. Et même quand il fait froid, quand on va les chercher pour les amener dans des lots, ils refusent. Il dit à la limite, tu me donnes un café chaud et tu me laisses tranquille. Vous avez beau faire. Et ce pasteur-là, il avait ce ministère d'aller vers ces personnes et de les inviter à table chez lui. Vous savez, ceux qui sont dans cette situation, ce n'est pas les parfums les plus exquis qu'ils mettent sur eux. Parce qu'ils vivent dans la rue et parfois, ils n'ont pas le choix. D'autres fois, ils se sont tellement accoutumés à ça qu'ils ne font pas autre chose que ça. Donc, déjà, aller chercher une personne comme ça, marcher avec elle, si vous n'avez pas ce don, vous n'allez pas y arriver. Vous allez faire une journée seule. Après, vous allez dire, c'est tordu. Parce que c'est difficile. Parce que c'est lourd. Parce que même si tu l'invites à aller se laver, parfois, il ne veut pas. Il dit, si je ne me lave pas, ne m'invite pas. Est-ce que moi, je te dirais à toi de te laver si je t'invite? Et le pasteur dit, oui, tu as raison. Allez, on y va comme ça. Il allait comme ça avec eux. Manger dans son salon. C'est ce don-là, le don de miséricorde. C'est un don qui est. Et l'Église en a besoin. On en a tous besoin parce qu'il y a des situations où on peut être touché. Donc, ça, c'est la liste de 1 Corinthiens 12. Ensuite, de Romains 12. Et la liste de Corinthiens, c'est celle-là. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le discernement des esprits, la diversité des dons, l'interprétation des langues, les apôtres, les évangélistes, les bergers, les assistants. Donc les quatre derniers, j'ai joint le texte de Éphésiens 4, parce qu'il y a Éphésiens 4 aussi qui le dit. Et dans Corinthiens, on a l'impression que c'est les dons extraordinaires. Voilà. Il dit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? Quand on regarde toute l'écriture, on voit que la parole de sagesse, c'est un service qui consiste à communiquer de façon intelligible l'instruction de bon sens, hein, le bon sens dans le sens des proverbes, hein, c'est des paroles qui viennent à propos, qui sont parfois formulées de façon peut-être un peu, voilà, on va dire, pas forcément ordinaire, mais qui touchent à quelque chose de précis et qui sont justes. Quand on lit des proverbes, je ne sais pas si vous avez lu les proverbes, mais quand vous lisez des proverbes, il y a des proverbes que vous comprenez tout de suite. Il y en a d'autres, il faut tourner un peu pour comprendre. Mais quelle que soit la façon dont vous lisez les proverbes, ça vous parle toujours. C'est dit dans une image, mais l'image vous parle de quelque chose qui vous concerne là, sur le moment aussi. Et ce, les frères et les sœurs, que Dieu utilise avec cette capacité-là, voilà. Et c'est cette capacité au travers de façon de dire les choses, de vous dire une vérité biblique. De vous dire une vérité biblique. Mais c'est toujours des paroles remplies de bon sens, des paroles de circonspection, donc des paroles précises, des paroles qui sont perspicaces, qui touchent quelque chose que vous vivez et qui parfois vont vous aider à résoudre des problèmes. C'est ça la parole de sagesse. Et quelquefois, si on a des personnes comme ça, ou des frères comme ça, ou des sœurs comme ça, on dit, ah, j'y avais pas pensé, tiens. Et dès qu'elle parle avec vous, dès qu'il parle avec vous sur cette situation, il y a comme une lumière qui s'éclaire sur quelque chose sur lequel vous butiez depuis, et là, ça avait une ouverture. Waouh, j'y avais pas pensé. Merci mon frère, merci ma soeur. Ça m'a éclairé. Et à la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un autre service, une autre capacité. Hein, c'est un ministère, c'est lié un peu à l'enseignement, la parole de connaissance. Hein. C'est une parole qui est plutôt dans le sens de quelque chose de bien étudié, de bien dit, structuré. C'est pas pareil que l'enseignement. L'enseignement, comme je le fais ce matin, ça c'est un enseignement. Hein, on part un thème, on le développe, on enseigne aux frères. Mais la parole de connaissance, c'est sur une situation donnée, c'est un frère, une sœur qui va venir vous aider de façon tellement structurée avec un texte ou avec une parole biblique, avec vraiment une étude. Et parfois vous avez l'impression que vous êtes en train de faire une étude biblique, mais en fait il le dit tellement naturellement avec les textes qui vont avec. Il peut enchaîner 1, 2, 3 textes qui parlent de la même chose, et là c'est plus des images mais c'est le texte biblique, et là il vous donne une parole qui est comme un enseignement et qui vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et parfois, on le voit aussi dans certains frères, certaines sœurs, quand ils prient. On ressent ça. Leurs prières sont parfois pas juste des prières. C'est aussi une forme de connaissance parce qu'il y a des versets, il y a des explications dans la prière. Et parfois, quand on écoute bien, en tout cas, on peut discerner si la personne a une culture biblique intéressante, solide. Et ce qui est étonnant, c'est que parfois, c'est des frères qui n'ont pas fait de théologie, c'est des sœurs qui n'ont pas fait de faculté de théologie, mais qui ont juste aimé la parole de Dieu, qui ont tellement lu la parole de Dieu, qu'ils sont capables de dire les choses comme une prédication. Et puis, il y a le don de foi, le don de la foi. Ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, nous tous sommes là, sinon on ne serait pas là. Donc, on n'a pas besoin que Dieu nous fasse encore un don de foi, on a déjà la foi. C'est ça qui nous a porté à l'évangile. Mais le don de foi, c'est une capacité exceptionnelle où quelques-uns d'entre nous, des femmes ou des frères, ont reçu cette confiance. Ça leur vient comme ça, sur un projet d'église ou sur quelque chose que Dieu veut faire. Ils ont la conviction que Dieu va le faire. Ils ont confiance. Quand on regarde, il n'y a rien qui peut avoir. Les éléments ne donnent pas d'avoir confiance. Mais la personne, elle a confiance. Et en général, on dit tous ceux qui ont été impliqués dans les lancements d'église, la plupart sont habités par ce don-là. Parce qu'ils partent de rien. Mais ils ont la conviction que Dieu veut qu'on mette ici. Pour ceux qui sont invités dans les choses de l'église aussi, ou dans les choses de la foi, hein, de la parole de Dieu, c'est toujours des gens, que ce soit pour l'église, pour tel groupe, pour telle structure, ils ont voilà, il y a quelque chose de plus que la foi qui sauve. Une conviction inébranlable que Dieu va le faire. Parfois, il y en a qui se plantent aussi. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il y a une conviction, mais ce n'était pas la bonne. Donc là, il faut dire, frère, ça, ce n'était pas un don de foi. Tu as pris une conviction personnelle, elle était très forte. Mais là, on doit reconnaître que ce n'est pas ça. Voilà. Donc, il faut être assez réaliste quelquefois, même dans l'Église de Dieu. Et puis, il y a le texte ici dit les charismes de guérison. Donc, ce n'est pas le don de guérison. En fait, dans le grec, c'est dit comme ça. C'est dit les capacités, non, les manifestations de guérison. Hein, c'est les manifestations de guérison. Donc finalement, ce n'est pas la personne qui guérit. C'est Dieu qui utilise à un moment donné des personnes ou un groupe de personnes pour apporter une guérison. Sinon, ce serait des guérisseurs. Il n'y a pas de guérisseurs dans la maison de Dieu. Mais c'est Dieu qui, à des moments donnés, et en fait, le thème, il est au pluriel. Et on se pose la question, pourquoi il est au pluriel? Parce que finalement, il n'y a pas qu'un seul moyen que Dieu prend pour guérir quand il veut intervenir. Et pour ceux qui ont accompagné des soeurs et des frères qui étaient dans des parcours de chimio, parfois Dieu nous a confondus parce qu'on avait la conviction que Dieu allait guérir la personne. Dieu l'a reprise. Elle est partie. Et parfois ça peut détruire la foi de quelques-uns. Si l'Église n'est pas sage, que toute l'Église dit, on a la conviction, Dieu va la guérir, Dieu va la guérir. Et puis elle part. Qu'est-ce qu'on va dire au plus faible d'entre nous? Parce qu'on l'a tellement dit que Dieu allait la guérir, Dieu ne l'a pas guérie. Dieu l'a reprise. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment-là? Comment? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc c'est la sagesse. Dans cette manifestation particulière, l'Église a besoin de sagesse pour accompagner les situations. Moi, j'ai vu des situations où on n'avait pas de conviction extraordinaire que Dieu allait guérir la personne, mais on avait la conviction de prier régulièrement pour la personne. Et Dieu a fait des choses qui nous ont étonnés. Qui nous ont étonnés. C'est vrai qu'aussi, Dieu a suscité au cours des siècles des gens, des serviteurs de Dieu qui avaient que Dieu, pendant des grandes campagnes d'évangélisation, Dieu a manifesté des guérisons extraordinaires. Ça existe, il y a des preuves à l'appui. Mais c'est la sagesse. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui décide. Si l'Église commence à dire Dieu va guérir tous les malades, et nous qui avons encore des malades dans nos familles, on n'a pas la foi. Il faut faire attention avec ces choses-là. Et parfois on dit ça, ouais, mais t'as pas la foi. Mais t'es gentil, je suis malade et j'ai pas la foi. Tu connais un malade qui ne veut pas guérir. Vous connaissez des malades qui n'ont pas la foi pour guérir. Ça n'existe pas. Il faut être sage. Les gens souffrent déjà dans leur chair. C'est par amour. Il dit les dons que Dieu donne, c'est par amour. On n'est pas là pour manifester quelque chose d'extraordinaire, pour qu'on dise notre église est extraordinaire. On est là pour manifester l'amour vis-à-vis de la personne qui souffre. C'est parce qu'elle souffre qu'on veut que Dieu arrête sa souffrance. Mais en même temps, on est sensible pour ne pas trop lui mettre un poids dont elle n'a pas besoin. Si vous continuez à convaincre quelqu'un qui souffre que Dieu va la guérir et qu'elle vous dit ma situation, je l'accepte telle qu'elle a. Non, 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 non. Dieu va te guérir, ma soeur. Ton problème, il est où? Elle a accepté sa situation. Elle s'attend à son Dieu dans la guérison comme dans son départ. On dit gloire à Dieu. Et on l'accompagne. Mais on n'est pas là pour la convaincre forcément qu'elle doit être guérie. S'il y a quelqu'un qui a envie d'être guéri, c'est bien elle. Nous, on est autour. Donc, soyons sages avec cette manifestation particulière de guérison. La mise en œuvre, donc voilà. Là encore, ce n'est pas dit don de miracle, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là-bas, c'est pareil, manifestation de guérison. Il n'y a pas de don de miracle. Le texte biblique dit la mise en œuvre des choses efficaces, c'est-à-dire des signes et des prodiges. C'est Dieu qui, à un moment donné, permet à un serviteur, à une église, de vivre quelque chose de miraculeux. Je ne reviens pas dessus parce que je les ai expliqués. Les miracles qu'on programme, moi je m'en méfie un peu. Quand on programme un temps pour prier, pour que Dieu se manifeste, c'est autre chose. Mais quand on programme un temps précis de miracle, je dis, oulala, ma petite foi me suffit pour l'instant. Parce que des miracles, j'en ai vu aussi. Parfois, on parle de grands miracles, mais regardez vos vies, il y en a eu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre est grand. Combien le nombre, il est grand. Eric, un soir, Eric Zali nous racontait un soir comment il a évité un accident. Si ce n'est pas Dieu qui avait fait ce miracle-là, franchement. Un non-converti dirait, oulala, j'ai eu de la chance, franchement. Il dit, à moins une, je me serais pris cet accident-là, mais j'ai eu du bol. Nous, on sait que ce n'est pas du bol. On sait que c'est Dieu qui est intervenu à un moment donné. Il a fait son miracle. Il a arrêté l'action. Il y a un frère à Corbeil qui a vécu un accident incroyable. Il a fallu perdre la vie. Sur la 6, à 6, 90, 100 à l'heure à peu près, il y a une voiture qui perd sa roue en face de lui, qui vient comme ça. Sa voiture a été endommagée, mais lui, il n'a rien eu. Aujourd'hui, ils ont acheté une nouvelle voiture avec l'assurance. Est-ce que Dieu a fait sa prise à une voiture? On n'en sait rien. Vous savez, quelquefois, les assurances, elles nous prennent, mais d'autres fois, elles n'ont pas le choix de nous donner plus. Ça arrive quelquefois. Et ils ont eu l'occasion, au travers de l'assurance, d'acquérir une nouvelle voiture. De quelque chose de malheureux, Dieu en a sorti quelque chose de positif. Amen. Il parle de prophétie. Mais ça, on en a déjà parlé, donc je ne m'étaye pas dessus. La prophétie, je le redis simplement et je termine. Ce n'est pas la prédiction de l'avant, du futur d'abord. Les prophéties bibliques ne sont pas les prédictions du futur. C'est de dire toujours la parole de Dieu plus haut et dans des cas précis, de le redire de sorte que cette parole de Dieu atteigne une situation précise, concrète et que le frère et la sœur comprennent la parole de Dieu. C'est ça la prophétie. Ensuite, oui, Dieu peut aussi montrer des choses à venir. Il fait ça parce que c'est lui qui connaît tout. Mais le premier rôle de la prophétie, ce n'est pas de montrer des choses à venir, sinon on est des charlatans. Et ça arrive dans certains milieux. Pasteur, Dieu t'a pas mis à cœur quelque chose pour moi? Mais Dieu m'a pas mis à cœur quelque chose. Il m'a mis à cœur de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il me mette à cœur pour toi? Il t'a pas parlé de mon travail? Ton travail, je prie pour ton travail. Mais que Dieu me révèle quelque chose de son travail. Et ça devient du charlatanisme. On s'attend toujours à ce que le pasteur ait une parole précise pour une situation précise, pour un domaine précis. Et on vit de ça. Mais en fait, quand on fait ça, on est des occultistes. Parce que l'occultisme, c'est ça. Ceux qui vivent de l'horoscope, c'est de l'occultisme. Parce que derrière l'horoscope, c'est la lecture des astres. Et les astres, avant, c'était les occultistes qui le faisaient. On dit, tu es lion. Pendant quelques années, ma maman nous a fait ça parce qu'elle était catholique. Donc, on avait chacun nos signes astrales. Moi, j'étais lion. On avait des chaînes avec le médaillon. Mon médaillon, c'était lion. Donc tu l'ouvres le journal, qu'est-ce qui est dit pour les lions aujourd'hui? Et tu vis de ça. Et tu ne te rends pas compte, en fait, tu te lies à quelque chose. Et tu n'es plus libre, mais tu dis dans ta tête que tu es libre, mais tu n'es plus libre puisque tu es lié à l'horoscope. Et puis, avec du recul, l'horoscope, c'est toujours bateau. C'est-à-dire, c'est des choses générales. Le soleil va se lever ce matin. Mais évidemment, le soleil va se lever ce matin. Mais pour toi, il va briller particulièrement. Dis-moi comment le soleil peut briller particulièrement pour moi, franchement. Puis quand tu marches, qu'un rayon de soleil te touche, tu dis, ouais, c'est vrai. Ça, c'était écrit dans l'horoscope. C'est une manipulation. On nous conditionne. C'est un conditionnement. Et quand on vit de ces genres de prophéties dans l'église, ça devient du charlatanisme. Et on vit de ça. Mais Dieu nous a trop créés intelligents pour qu'on vive de ça. Et quand moi, je nous regarde avec les parcours qui sont les nôtres, on n'a pas attendu ça pour se battre dans la vie. Si on avait attendu ça, on ne serait pas là. Que Dieu fasse ça quelquefois, je veux bien. Mais qu'on s'attende à ça tout le temps, c'est pas ce que Dieu veut. Donc la prophétie, c'est pas d'abord ça. Ensuite, il y a le grand palabre de l'apôtre Paul avec les Corinthiens. La diversité des langues. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que dans le contexte biblique des Corinthiens, dans les cultes à mystère, ce qu'on appelait les cultes à mystère, c'est les cultes gréco-romains, il y avait des parlers en langue. Donc il y a une déesse qu'on appelait la déesse de Corinthe, mais qui a un nom particulier, qui était une prophétesse. Bah, ses prophéties sortaient dans des langues bizarres. Elle avait des interprètes. Et parfois elle était sous extase. Et ceux qui sont des cultures antillaises et cultures africaines, même culture métropolitaine dans la France profonde, on connaît ces phénomènes. Ces phénomènes d'extase, où quelqu'un tombe sur une extase, donc il a comme perdu la raison, il dit des choses folles, et puis après nous les interprètes, voilà ce que les esprits ont dit pour toi. Tu dis, ouais, c'est vrai. Ils se sont intéressés à moi, les esprits, franchement. Mais nos cultures ont été attachées à ça. Que ce soit dans le vaudou, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans le fétichisme, c'est attaché à ça. Et moi, dans ma culture, il y a des manifestations comme ça où celles qu'on appelle les matrones, quand elles tombent en transe, en fait, elles parlent des langues. On ne comprend pas le chemin. Et Corinthe, ils avaient pris ça déjà dans les cultes à mystère, ils ont envoyé ça à l'église. De sorte que même des manifestations qui étaient des manifestations de l'esprit, on ne savait plus distinguer qu'est-ce qui était de l'esprit, qu'est-ce qui était de leur arrière-plan culturel mystique. Et l'apôtre Paul dit, faites attention avec ces choses-là. Faites attention. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ce domaine précis, il dit, si ça arrive dans l'église, qu'on interprète. S'il n'y a pas d'interprète, la personne doit se taire. C'est le texte qui le dit, hein, c'est pas moi. Lisez bien le texte. Il dit, ce don-là, si quelqu'un l'a, ça doit être suivi d'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, il dit, ça ne sert à rien, parce que ça n'édifie personne. Si depuis... Là, il est quelle heure? Il est 11h, presque 30. Si depuis 9h45, je m'étais 10h45, j'avais commencé à vous comprenez quelque chose? Et que pendant une heure je fasse ça, franchement ça allait être ennuyeux, puis j'allais être ridicule devant vous de toutes les façons. L'apôtre Paul dit ça ressemble à ça. Quand vous utilisez ces choses que les gens ne comprennent pas, ça ressemble à ça. Qui est de dons authentiques, l'apôtre Paul ne le met pas en doute. Il dit il y en a d'authentiques aussi. Mais quand on assemblée comme ça, ça ne sert pas à grand chose. Puisque ça jette plus du discrédit que de la sérénité. Mais qu'il y en a d'authentique, oui. Il dit qu'il y en a d'authentique, ça se voit. Ça se connaît aussi. Il y a des interprétations aussi qui vont avec. Et dans l'histoire de l'Église, nous, on a deux tendances dans les évangéliques. Il y a ceux qui croient que ce don existe et qui le manifestent. Mais en fait, ce n'est pas le don qu'ils manifestent. Ils manifestent autre chose qui est une expérience spirituelle qu'ils appellent l'expérience du baptême du Saint-Esprit, qui est attachée au parler en langue, mais ce n'est pas le parler en langue qui est dans 1 Corinthiens 12. C'est une autre expérience spirituelle. Nous, on ne le pratique pas parce qu'on dit, de toutes les façons, cette expérience, si on veut, on la fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est enseigné par la Bible. La Bible n'enseigne pas clairement qu'il faut que tous les chrétiens aient cette expérience spirituelle qui passe par le parler en langue. Donc du coup, comme ce n'est pas un enseignement massif, nous, dans notre lecture du biblique, on ne le fait pas. Si un chrétien le vit, gloire à Dieu. Si ça l'édifie, gloire à Dieu. On ne l'enseigne pas. Par contre, cela dit, quand on prend ce qu'on appelle la glossolalie, donc la glossolalie, c'est ces langues qu'on n'a pas apprises, qu'on parle dans la prière et qui n'ont pas de structure grammaticale aucune, qui est connue nulle part. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un vit cette expérience, il s'édifie lui-même. Parce que certainement, il parle à Dieu dans des langues que lui, il ne connaît pas, mais dans sa communion avec Dieu, ça l'édifie. Il dit, tant mieux. Mais ça reste personnel. Il dit, moi-même, l'apôtre Paul, cette expérience mystique, je l'ai vécue aussi. Mais quand je suis dans l'église, je parle dans des langues que tous les frères comprennent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'amour de mes frères. Ce n'est pas mon expérience personnelle d'abord. Cette expérience personnelle, elle me nourrit dans mon intimité. Et je vous ma parenthèse, je la ferme aussitôt. J'ai connu dans mon parcours des frères qui n'ont vécu ces expériences nulle part, qui n'ont jamais parlé en langue, mais qui étaient des frères de référence pour moi, qui étaient des sœurs de référence, des chrétiens engagés, concrets, puissants dans le service de Dieu, mais qui n'ont jamais fait cette expérience. J'en ai connu d'autres qui ont fait cette expérience, qui étaient aussi des frères engagés. Conséquent pour dire avec ou sans, c'est pas ça qui détermine notre engagement chrétien et la qualité de notre vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce don. Parce que parfois, ça crée des divisions dont on n'a pas besoin. Dont on n'a pas besoin. Je le dis avec beaucoup de... Et je m'en excuse, mais parfois, il y a des thèmes comme ça sur lesquels je préfère, en tout cas dans ma lecture, être clair avec l'Église pour que l'Église sache comment on fait les choses, comment on vit les choses et qu'on ne prenne pas de pression inutile. Donc, le don qui suit, c'est le don d'interprétation. Donc, il dit, ce don-là, il est lié au premier. Si celui qui a ça, franchement, s'il n'a pas l'interprétation, il faut que quand il le fasse, qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Et dans la glossolalie, il y a deux types de glossolalie, en fait, parce qu'il y a la xénoglossie. La xénoglossie, c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 2. À la Pentecôte, en fait, les apôtres, lorsqu'ils parlaient en langue, ce n'étaient pas des langues non structurées. Le texte dit que tous ceux qui étaient là, qui étaient les représentants de tous les peuplades vivant dans un périmètre qu'on peut situer, en tout cas en Palestine, en Asie, en Europe et en Afrique, qui étaient là ce jour à Jérusalem, plus de 3000 personnes, chacun entendait les apôtres dans sa langue précise, maternelle. Eux, ils ne savaient pas trop ce qu'ils racontaient, mais les autres comprenaient. Donc en fait, c'est comme si je parle du chinois, alors que je ne l'ai pas appris. C'est comme si pendant la Pentecôte, Dieu me faisait parler chinois, alors que je n'ai pas appris le chinois. Et que le chinois qui est dans la salle, il m'entend clairement dire les merveilles de Dieu en chinois. Ça, c'est la xénoglossie. Et il semble que dans l'histoire, il y a eu quelques conversions qui se sont faites sur cette base-là. On raconte l'histoire dans un avion d'un frère qui priait. Enfin, il était poussé à prier ce jour-là dans l'avion à côté de son voisin. Il ne sait pas trop pourquoi, il s'est mis à prier. En murmurant, bien sûr, on est dans l'avion, on n'est pas n'importe où. Donc, il murmurait, mais dans sa prière, comme si moi je priais à voix basse. Voilà. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Et en fait, pendant qu'il priait dans cette langue-là, en fait, c'était la langue de son voisin. Il était en train de l'évangéliser. Et quand il a fini, le monsieur dit, mais d'où me connaissez-vous? Il dit, mais d'où je vous connais, c'est-à-dire? Il dit, mais vous venez de dire des choses. Vous venez de me parler à l'instant. Et vous parlez. Non, moi, je t'entends prier. Il dit, oui, mais la langue dans laquelle vous priez, en fait, c'est ma langue. Et voilà ce que vous avez dit exactement. Et là, ça a fait titre dans la tête du frère. Il a dit, d'accord, je comprends. Et il a évangélisé la personne. Mais après, il n'a plus jamais parlé cette langue. Parce que c'était sur le moment que Dieu lui a donné ça. Donc, c'est des phénomènes rares aussi, il faut le dire clairement. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais Dieu peut faire ça aussi, parce qu'il est puissant. Et puis, l'apôtre Paul termine dans Éphésiens avec des ministères établis. Il dit des apôtres. Les apôtres, le ministère d'apôtre, il n'existe plus. Il n'y en a eu que 13. C'est les 12 plus Paul. C'est eux qui étaient désignés par Jésus parce qu'ils l'ont vu vivant et ressuscité, désignés par Jésus pour finir la parole de Dieu. Ce qu'ils ont écrit est parole de Dieu parce qu'ils sont liés, parce qu'ils sont apôtres. Donc ça veut dire que si quelqu'un se dit apôtre aujourd'hui, dans le sens biblique du terme, ça veut dire que ce qu'il va dire, c'est la même valeur que les 66 livres de la Bible. Mais est-ce que ça peut exister? Ça n'existe plus. Donc les apôtres bibliques, c'est fini. Maintenant, il y a un autre type d'apôtres. On dit c'est des missionnaires, c'est des bâtisseurs d'église. Moi, je critique personne, mais je dis si tu es bâtisseur d'église, tu peux t'appeler bâtisseur d'église, même si le nom est trop compliqué. Mais au moins, tu peux dire je suis bâtisseur de plusieurs églises. Parce que quand tu dis tu es apôtre, ça sème la confusion. Parce que ce don-là, il était lié aux 13. Il est fini ce don-là. Ensuite, l'apôtre Paul parle de l'évangéliste. Hein. On n'a pas besoin de définir. Un évangéliste, c'est celui ou celle qui... Nous tous, on est invités à évangéliser, mais il y a des frères et des sœurs qui... C'est naturel. Quand ils sont là, quand ils sont en contact avec quelqu'un, ça va tout de suite, au bout de 2-3 échanges, tout de suite, c'est sur l'évangile que ça va aboutir. Et même ces interlocuteurs sont toujours un peu déboussolés de la façon dont la conversion part. Et s'il est dans une entité, une entreprise, il va finir par avoir un nom. Soit on va l'appeler le prédicateur, soit on va l'appeler le pasteur, parce qu'il est comme ça, parce qu'elle est comme ça. C'est un don d'évangéliste. Et cette capacité, cette facilité de tout de suite embrayer sur l'évangile. Et c'est un don dont l'Église a besoin, n'est-ce pas? Et ses frères, ses sœurs sont toujours aussi très fortes à inviter des gens à l'Église. Et non pas, en train d'inviter, tu vois des frères comme ça, des soeurs comme ça, qui est toujours quelqu'un qui vient à l'église, toujours. Donc il y en a qui sont capables de parler de Dieu, mais il y en a qui sont capables toujours d'inviter des gens à l'église. Toujours. Viens avec moi, ce dimanche on va à l'église. Ce dimanche on va à l'église. Tu me vis toujours à l'église, toi. Oui, tu viens. Et puis il y a les bergers pasteurs, c'est tous ceux qui ont ce don d'entretenir, de conduire le peuple de Dieu. C'est un don aussi dont on connaît, dont je ne dis pas trop. Et puis finalement, il y a deux autres dons de service, ce qu'il appelle le secours, l'assistance, voilà. Je ne sais pas si c'est. Voilà, en bas. Assistance et entrée de secourir. Hein. On voit que quand on lit les actes des apôtres, c'était un don qui était utile parce qu'il y avait beaucoup de nécessités dans l'église. Et ses frères et ses sœurs étaient vraiment dans l'action pour encourager, pour encadrer. Et même la diaconie a été créée par rapport à ça. Quand on lit Actes chapitre 6, c'est ce besoin d'aider, d'encadrer, de suivre les veuves à l'époque. C'est comme ça que le diaconat est né, pour encadrer les veuves. Parce qu'à l'époque, les veuves n'avaient vraiment pas grand-chose. C'est des économies, on était lié à son mari. Lorsqu'on perdait son mari, on perdait tous ses moyens financiers. Et si on n'avait pas d'enfants, c'était encore pire. Si on avait des enfants, ils pouvaient prendre en charge. Et l'apôtre Paul dit, vous qui êtes des chrétiens, quand vos mamans sont, quand vos parents sont veufs, c'est à vous de les prendre en charge. Mais quand ils n'ont pas d'enfants et qu'elles sont des chrétiennes, l'église devait s'organiser pour les prendre en charge. Et l'église organisait des choses pour les prendre en charge. C'est un ministère dont on a besoin. Même si notre société occidentale a travaillé la question de l'aide sociale, l'église ne doit pas oublier que aussi c'est son ministère en interne d'aider les nécessiteux. Voilà, on a fait le tour. Je n'ai pas eu la prétention de tout dire avec précision sur tous les dons. J'ai dit, on va passer en revue les dons. J'ai dit la dernière fois que j'ai une liste qui est là. Ceux qui veulent avoir les tableaux de ces dons, vous mettez, parce que c'est quand même 4 pages. On ne va pas faire trop de copies qui vont rester là sans être utilisées parce que c'est les moyens de l'église. Donc ceux qui ont besoin, la liste était là. Vous mettez vos noms et on fera les copies à l'occasion. Dimanche prochain, on vous les rendra. Donc en dehors de ces dons-là, il y a, comme je l'ai dit, quand on balaye toute la parole de Dieu, il y a des dons qu'on trouve. Il y a le don de prière d'intercession. Tous les chrétiens sont appelés à prier, à intercéder. Mais c'est vrai qu'il y a des frères et des sœurs, il y a des familles qui ont vraiment particulièrement à cœur d'être dans la prière pour des situations précises. Hein? Ça, c'est le don d'intercession. Il y a la relation d'aide. Ceux qui ont cette capacité aussi d'accompagner une sœur, un frère sur une situation donnée, sur la durée. Hein? Si j'ai communiqué avec un frère là tout de suite sur une situation, je l'ai aidé, mais ce n'est pas ça le don de la sœur. Le don de la sœur, ça va plus loin. La personne se sent liée à la personne qui travaille la situation, et quand la personne n'est pas bien, elle n'est pas bien non plus, et puis elle accompagne dans la parole de Dieu, dans les encouragements, et ça c'est le don de relation d'aide. Il y a le don de missionnaire, ceux qui ont cette capacité d'aller dans d'autres pays et qui savent bien s'intégrer là où ils vont. On n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a qui ont fait des voyages mais qui sont revenus 2 jours après parce que ça n'allait pas du tout. Et ces missionnaires-là, Dieu donne la capacité de s'adapter dans les pays où ils vont, à la langue. Moi, j'ai vu des missionnaires qui mangeaient des mets de chez moi que moi-même, je ne mange pas. Pas parce que ce n'était pas bon, mais parce que je n'aimais pas. Mais ce missionnaire-là, il mangeait tout. C'est pas possible. Incroyable. Comment tu fais? Ouais, parce qu'il était comme ça. J'ai conduit une autre fois une délégation de jeunes Américains. On est allé au cœur des villages. Mais ces petits Américains, ils marchaient pieds plats dans le village, tranquillement. Ils avaient ce cœur-là pour la mission. Donc c'est ça, l'appel missionnaire. L'hospitalité. Hein, nous tous, on est appelés à être hospitaliers, mais il y a des frères, il y a des sœurs qui ont particulièrement cette capacité d'accueillir toujours chez eux des gens et des personnes. Hein. La musique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une capacité aussi qu'on met à la gloire de Dieu. Hein, on le trouve dans la parole de Dieu tellement de fois. Hein. La créativité artistique, hein, ceux aussi qui sont des créateurs artistiquement parlant, qui mettent ça à la gloire de Dieu. On voit ça plein de fois maintenant dans l'œuvre de Dieu. Il y a l'habileté manuelle. Hein, l'habileté manuelle, on en a tellement besoin dans l'église pour faire des choses. Nous, notre église a un projet soit d'achat, soit de construction. On va en avoir besoin, sinon ça va nous coûter trop cher. Ceux qui ont construit les maisons, en tout cas ceux qui ont acquis les maisons, ils savent. Hein. Quand tu sais faire 2-3 bricoles, ça te revient un peu moins cher. Mais quand tu dois faire venir de l'extérieur, les services de gens qui font, ça monte vite. Et l'église a besoin de gens qui ont ces dons manuels pour nous aider dans des choses concrètes, pratiques. Sinon, c'est toujours des factures qui sortent alors qu'on n'a pas tant de moyens que ça. Et ces frères nous rendent des services incroyables dans l'église. Incroyables. Si on devait les facturer, franchement, on ne s'en sortirait pas. Et nous le font gratuitement parce qu'ils ont ces dons-là, l'habilité manuelle. Et puis, l'organisation aussi, c'est un don. Hein? On n'est pas tous outillés pour organiser. Il y en a qui organisent moins bien, d'autres un peu plus. Voilà, il y a ces dons-là. Donc voilà,
J'ai essayé de ne pas être long, mais je n'ai pas eu le choix d'aller plus loin. Mais au moins, c'est fini aujourd'hui. Voilà, on a terminé sur cette thématique. Et donc, je l'ai redit, je le dis vite fait. Si tu peux remettre les derniers slides, comme ça, on passe vite dessus. Voilà, donc ça, je l'avais dit déjà, je le redis là. Si on aspire, hein, verset 31 dit « aspirer au don ». Comment le faire? Ça, c'est une petite méthodologie que j'ai retrouvée dans plusieurs commentateurs qui travaillent sur la question du don. Voilà, il y a la prière. On veut servir Dieu, on veut aimer. Aimer ses frères, c'est s'engager pour eux. Je prie, Seigneur, je veux aussi être utile dans cette église. Montre-moi, guide-moi. Ensuite, il y a la disponibilité pratique. Bah, si tu demandes à Dieu de t'utiliser pour l'église, bah, forcément, il faut que tu sois aussi un peu disponible. Demander aux frères du groupe de louange, ça demande de la disponibilité. Ça demande de l'organisation pour être là. Demander aux monitrices, c'est pareil. Ça demande de l'organisation sur ces dimanches, sur les week-ends. Un engagement appelle un coût à payer. Il faut le savoir. Et parce que tous, on paye le coût, Dieu nous aide à avancer. Même la librairie, on croit que c'est simple, c'est pas simple. Il faut qu'elle trouve le temps d'aller déjà en librairie, chercher les livres, les lire, venir nous donner un petit aperçu pour que nous, on soit appâtés pour aller les lire. Mais ça demande du temps. Mais c'est utile. Parce que de nous-mêmes, aller lire, oh là là, même si tu as tous les titres, encore, il faut t'en sortir. Mais quand quelqu'un vient t'expliquer que ce livre-là, voilà ce qu'il y a dedans, ça te donne un intérêt. Donc, il y a ça, cette disponibilité. L'acquisition des connaissances. Si je commence à discerner mon don, bah, il faut que j'aille maintenant chercher l'information. Et on l'a fait un peu ici. On va mettre des photocopies à la disposition. Il faut creuser. On est des chrétiens, on est des gens intelligents en plus. Donc, on peut aller plus loin dans notre connaissance pour mieux servir et Dieu, et l'Église, et notre prochain. Hein? La joie du service, je l'ai dit. Là, j'avais mis plaisir, mais j'ai enlevé. C'est la joie. Quand on a le service de Dieu, en fait, on est toujours heureux d'avoir été utile aux autres. Toujours, toujours. Malgré le prix qu'on paye, on est heureux d'avoir été utile aux autres. Dans le don qu'on a. Et puis, dans l'action, il faut essayer. On ne sait pas tout. On n'a pas la science infuse. C'est Dieu qui connaît tout. Nous, on essaie. Si on est passif, on ne saura jamais. Celui qui ne fait rien, il ne saura jamais rien faire. Mais celui qui sait, bah, il va y arriver. Et c'est en essayant qu'on discerne, qu'on tâtonne et qu'on voit, ah là, je crois que c'est ici ma place, je l'ai trouvé, enfin ma place. Mais si on n'essaie pas, on ne va pas y arriver. Si on attend d'être éclairé sur tout pour s'engager, on va attendre encore des années. Donc Dieu veut que tu t'engages maintenant pour le servir. Et puis enfin, la vérification et l'évaluation. Ce n'est pas tant l'efficacité du don qui est en cause, non, c'est... Comme on l'a dit, si Dieu t'a donné ce don, c'est pour que ça ait un effet dans la vie de l'Église, un effet dans la vie du frère et de la sœur. Et l'effet, il peut être moins ou plus, mais il est là. Et on parlait hier d'un frère, là où j'étais, et les gens disent à l'Église, les gens, le frère, il passe inaperçu, mais derrière, quand il est dans son entité avec ses frères et sœurs, il a une qualité qu'on ne discerne pas dans l'Église. Et son efficacité, on ne le voit pas ici, son efficacité. Mais ceux qui sont avec lui, dans le groupe dans lequel ils sont, ils voient son efficacité. Ils la connaissent, son efficacité. Et ça montre qu'il a ce don-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai cette petite page. Mais celle-là, il faut la demander aussi. Je crois que... Voilà. Pratiquement, quels sont les comités de l'Église? Quels sont les services de l'Église? J'ai cité quelques-uns. Bah, pour ces services-là, quels sont les dons qui sont utiles? Bah, si tu veux être monitrice, bah, faut que tu aimes l'enseignement. C'est pas possible. Si tu n'aimes pas l'enseignement, tu ne veux pas être monitrice parce qu'il faut que tu enseignes les enfants. Donc, ça demande un peu de discipline, un peu de travail sur les tests bibliques, un peu de travail d'organisation, de pédagogie aussi. OK? Mais il faut que tu sois en même temps berger parce que berger, c'est le cœur de quelqu'un qui aime un groupe. Bah, les enfants, si tu n'es pas berger, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Parce que eux, parfois, c'est des casse-pieds. Ils ne sont pas tous comme ça, mais quand même, on est tous passés par là, on sait ce que ça peut être. Le berger, il est tendre, il est toujours, voilà. Donc, il y a ce don de berger. La relation d'aide, les enfants, il faut les accompagner. Il y a une façon aussi d'accompagner, d'être attentif à l'enfant. Les jeunes, encore plus, quand c'est des ados, pré-ados, oulala, il faut être outillé pour ça. Si on y va parce qu'on n'aime que les jeunes, c'est déjà bien, mais il faut tester si on a les dons, parce que ça peut être épuisant. Ça peut être aussi, parfois, on peut sortir trop déçu. Parce qu'on pensait pouvoir, il y a un frère comme ça qui pensait pouvoir s'investir dans le groupe de jeunes, qui est allé et qui dit les jeunes de maintenant, c'est pas les jeunes d'hier. J'ai dit, bah oui, c'est pas les jeunes d'hier, évidemment. C'est pas les jeunes d'hier, mais ils sont de leur âge, voilà. Donc il faut avoir cet appel aussi pour leur âge à eux, pour être dans la. Bref, donc voilà, vous avez un certain nombre d'indications que vous pouvez avoir aussi sur les fiches quand vous les demanderez tout à l'heure. Voilà, je veux juste bénir Dieu et prier que chacun de nous, dans ce parcours qui est le nôtre, que chacun puisse trouver son chemin pour servir Dieu et dans l'Église et le prochain. Prions. Te bénissons, Seigneur. On essaie toujours d'aller, voilà, de dire les choses au maximum. Mais je pense que toi, tu permets que ce qui est utile, qu'on puisse le libérer. Maintenant, j'ai essayé d'apporter ces éléments à mes frères. Ma prière au fond de mon cœur, c'est que chacun puisse continuer à grandir dans son service. Pour ceux qui l'ont déjà discerné, que tu leur donnes de progresser. Pour ceux qui cherchent à le discerner, que tu leur motives à aspirer à ces choses. Pour la gloire de ton nom, pour le service dans l'Église, pour le service du prochain. Parce que tu as besoin de chacun de nous, Seigneur. Te bénissons au nom de Jésus.